Mais on va m'entendre. Ça, c'est toutefois, on me prête attention.
Bah, je crois qu'ici, on est disposé à le faire. Et je pense que c'est pour vous entendre que les auditeurs écoutent cette émission et c'est pour parler que vous êtes venus. Alors, la première question que je voudrais vous poser, elle s'impose. On parlera du débat ensuite, si vous voulez. Mais la première question, c'est est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de nous monter un Carpentras bis?
Oui, c'est en quelque sorte la réponse du président de la République, François Mitterrand, à la lettre que je lui ai envoyée il y a quelques jours. Nous serons dans quelques jours le 5e anniversaire de Carpentras.
Oui.
C'est-à-dire du montage politique, de la machination politique la plus performante montée par la 5e République mitterrandienne contre le mouvement national et pour essayer de le discréditer dans l'opinion de nos concitoyens. Dieu merci en vain d'ailleurs, puisque comme je l'ai dit sur la place de l'Opéra, devant plusieurs dizaines de milliers de personnes, je suis arrivé en tête à Carpentras, comme je suis d'ailleurs arrivé en tête à Marseille et dans beaucoup d'autres villes. Mais ces deux villes étaient un peu emblématiques et par conséquent, je considère que le peuple français, dans ce domaine, et comme dans un certain nombre d'autres, est beaucoup plus lucide que ceux qui prétendent le conduire.
Il est très très frappant, quand on relit, comme je l'ai fait, le dossier de Carpentras, de constater la parfaite similitude des deux affaires.
Oui.
C'est absolument stupéfiant.
Absolument.
Alors, on peut livrer des détails à la méditation de nos auditeurs. Par exemple, le fait qu'à Carpentras, le ministre de l'Intérieur, comme par hasard, était à quelques kilomètres du lieu de la tragédie.
Oui.
Il se trouve que j'ai reçu tout à l'heure le témoignage par fax, signé, je m'empresse de le dire, d'un couple qui était sur les lieux, en quelque sorte, non pas sur les lieux du drame qui s'est passé à Paris, mais sur les lieux avant le drame. Et il faut remarquer une chose qui est tout à fait intéressante et qui ouvre matière à réflexion, c'est que, bien entendu, comment on pouvait s'y attendre, d'une part, le cortège du Front National était précédé, encadré et suivi par de très importantes forces de police. Et d'autre part, la scène, au moment du passage du cortège sur le pont du Carrousel, avant le passage et après le passage, était sillonnée de façon permanente par un zodiaque de la police
la brigade fluviale. Le zodiaque qui, en tous les cas, n'a pas été en mesure de sortir le malheureux de l'eau.
Oui.
Ayant peut-être d'autres préoccupations que celle de sauver les gens qui tombent ou qui sont jetés dans la Seine.
Alors on peut se poser la question, parce qu'effectivement maintenant on sait qu'il y avait des policiers sur place ou à proximité immédiate au moment du drame. On sait d'autre part qu'il y a eu de nombreux témoins, puisqu'il semblerait que les journaux soient accablés de témoignages qui sont d'ailleurs fort intéressants parce qu'ils sont tous contradictoires. On nous dit tantôt que c'est trois skins habillés en kaki. Après, ce sont une dizaine de skins habillés en bombers noirs brillants. Et tout ça est exposé dans les journaux avec une formidable force de conviction. Chaque journal publiant son témoignage qui diverge complètement des autres. En tout cas, il y avait des témoins, mais comme le fait remarquer un collaborateur du Français ce matin dans son article, Knut, il n'y a eu personne qui était suffisamment témoin pour sauter à l'eau et essayer de tirer ce malheureux de la soupe.
Qui serait, dit-on, resté 4 à 5 minutes à se débattre. Mais si vous voulez bien, nous allons revenir sur cette affaire qui est quand même une affaire très importante et que vos auditeurs doivent bien connaître. Mais avant, je voudrais leur citer une perle d'ignominie, n'est-ce pas ? C'est celle d'un journaliste qui s'appelle Benoît Duquesne. D'un journaliste, je crois, de la 2, et qui fait une espèce d'éditorial à l'occasion de cette affaire, alors qu'évidemment, on n'en est encore qu'au stade des investigations. Mais M. Duquesne, lui, il a reçu l'éclairage qui convient. Lui, il sait. Et il requiert contre Le Pen, comme un procureur de la commune, à la manière des gens de Goebbels ou à la manière des gens de Staline. Jean-Marie Le Pen est-il responsable de ces violences? Je le cite. Juridiquement, non. Mais est-ce suffisant quand il ne condamne pas ouvertement, quand il regrette simplement qu'un malheureux se soit noyé, quand il parle au contraire de procès en sorcellerie, de provocation, de déclarations scandaleuses d'irresponsables politiques? Est-ce suffisant quand son discours, tous les jours, prend les étrangers pour cible? Ceci est une affirmation totalement contraire à la vérité. Jamais je ne prends les immigrés comme cible. Je dis toujours que ce sont les politiciens français.
Vous l'avez
donc
encore répété au cours du meeting.
Ce Duquesne est un menteur fieffé. Il ajoute, alors il y a la démocratie, le souci d'équilibre dans les temps de parole, les 15% du premier tour et l'électorat conséquent. Mais faut-il pour autant s'habituer à ce genre d'incident? Faut-il compter les morts en attendant que la police ait fait son travail? Que faut-il donc faire, monsieur Duquesne? Il faut passer à la loi de Lynch? Il faut tirer sur les dirigeants du Front National? Il faut les pendre? À propos, monsieur Le Pen, et il me prend directement à partie, un incident est un événement secondaire, accessoire, sans importance excessive et généralement fâcheux. Ça, c'est ce que dit le dictionnaire. On aurait presque envie d'ajouter un simple détail, monsieur Le Pen. Alors, il s'agit là de gens qui poussent à la guerre civile, qui poussent à la violence, qui poussent à ce que les gens s'arment les uns contre les autres. C'est un métier de criminel. Car il faut tout de même revenir à l'essentiel. Il s'est produit un fait divers criminel. Fait divers qui aura beaucoup plus d'importance que l'assassinat d'une vieille dame par deux Marocains commis le même jour, puisque dans un cas, la victime est française, et dans l'autre cas, la victime est étrangère. Il est évident que le président de la République n'est pas allé déposer une gerbe de fleurs, n'est-ce pas, devant la maison de cette malheureuse qui a été massacrée par ces deux Marocains. Un des crimes n'excuse pas l'autre, je tiens à le dire, et je trouve profondément navrant, encore que je ne connaisse pas ni la personnalité de la victime, ni les circonstances exactes de sa mort, et que j'attends que la justice et la police fassent la clarté sur le sujet. J'ai quelques raisons de douter quelquefois qu'elle puisse ou qu'elle veuille le faire de façon véritablement efficace, et nous en reparlerons.
En tout cas, si à Marseille, on en a
voilà.
Une raison, on a une raison d'en douter.
Alors là, j'ai mis en cause hier le préfet de police, dans une phrase qui ne justifiait pas l'indignation du syndicat indépendant de la police, qui s'est trouvé indigné de ce que j'avais dit. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, la sécurité publique dans les rues de Paris, sur les quais et sur les berges de la Seine, n'est pas du fait de M. Le Pen. C'est la mission du préfet de police. C'est à lui de nous expliquer pourquoi la sécurité d'un passant n'a pas pu être assurée et de nous donner les circonstances dont je demandais qu'elles soient livrées au public. Alors, voici le communiqué, c'est tout de même extrêmement important. C'est le communiqué qui est titré « 1200 policiers encadraient de près la manifestation du Front National ». Ceci, c'est le communiqué de la police. Et selon cette source, ce dernier avait mis en place un dispositif policier resserré afin de veiller au bon déroulement de cette manifestation. La police était présente en tête de celle-ci, ainsi qu'en queue de cortège, marquant sa volonté de contrôler au plus près les troubles à l'ordre public éventuels et de ne tolérer aucun débordement. Notons au passage qu'il n'y a jamais eu de troubles de la part du Front National lors de la fête de Jeanne d'Arc, ni de débordement quelconque. Il ajoute, des points jugés sensibles au long du parcours ont fait l'objet de vigilance policière, notamment les rues du Dragon, des Saint-Père ou du Louvre. Cette source ajoute que le pont du Carrousel, où s'est déroulé le drame après que des skinheads eurent quitté la queue du cortège de la manifestation afin de s'en prendre à M. Bouaram, ne paraissait pas être rangé au nombre de ces points sensibles. Autrement dit, le franchissement d'une voie d'eau avec le risque de projection de manifestation ou de contre-manifestation dans cette voie d'eau ne constitue pas pour le préfet de police un point sensible. Notons-le. Notez aussi qu'il dit bien qu'il y avait des forces de police en queue de cortège. Alors si des éléments qui s'étaient introduits dans la queue du cortège se sont détachés de ce cortège pour attaquer ce monsieur à 150 mètres de là, la police est donc restée sans rien faire. Cette source ajoute que... oui, cette agression mortelle, précise-t-on, s'est produite nettement... Alors, je vous demande de bien écouter, mesdames et messieurs. Cette agression mortelle, dit la préfecture de police, s'est produite nettement en dehors de l'itinéraire de la manifestation, sur les berges en contrebas et à une certaine distance du pont. L'escadron de gendarmerie mobile installé en queue de cortège, conclut-on de même source, n'a pas été témoin de ces faits. Ils se sont donc produits après que les gendarmes mobiles qui fermaient le cortège soient passés dans la cour du Louvre. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui est absolument clair. Le Front National n'a strictement rien à voir, mais il est la victime d'une opération d'une machination, puisque à la même heure où ce jeune homme était jeté à l'eau, n'est-ce pas, par des individus skinhead, redskin ou provocateurs déguisés en redskin, n'est-ce pas, au même moment, des gens, dont une bonne sœur encore nette, déroulaient sur la façade de l'hôtel, du Grand Hôtel ou de l'hôtel La Rue de la Paix, une banderole insultante pour le Front National et parlant d'assassins et parlant de racisme. Et au même moment, du toit de l'opéra, non gardé par la police, ce qui est tout de même singulier, n'est-ce pas, non gardé par la police, 7 à 8 membres du SCALP déroulaient une autre banderole outrageante pour les assistants qui étaient là. Alors on voit bien la conjonction des faits et surtout l'extraordinaire exploitation médiatique faite immédiatement contre le Front National. En quoi Le Pen était-il responsable de cela? On peut se le demander, excusez-moi d'avoir été long.
Non, non,
mais... La passion de la vérité m'emporte, mais je dois dire que je ne suis pas du genre d'homme que l'on fait taire par la menace ou que l'on fait taire par l'insulte.
Je crois qu'on s'en est aperçu depuis un certain temps. Et je suis d'autant plus heureux que vous ayez pu vous exprimer complètement sur le sujet qu'avant l'émission, par fax, par des petits mots et par l'appel téléphonique, de très nombreux auditeurs avaient demandé à Jean-Marie Le Pen de nous dire ce qui s'est passé ou ce qu'il sait s'être passé. Je voudrais ajouter, à titre de journaliste, une remarque. J'ai lu tout ce qui avait été publié dans la presse sur cette affaire, bien entendu. Et,
il paraît qu'il y a un article intéressant dans Libération.
Oui.
Il paraît que c'est un des plus intéressants.
Oui. C'est toujours
qui dans, donne voilà. Le plus d'éléments. L'interprétation est souvent malveillante ou malfaisante, mais il y a des faits.
Si vous voulez, justement, on va en parler tout de suite. Enfin, je vais vous dire ce que j'ai remarqué. J'ai lu dans Le Parisien la chose suivante. Alors, je lis textuellement. Son neveu, le neveu de la victime, a été reçu par l'ambassadeur du Maroc à Paris qui a exprimé son émotion à cette famille de commerçants. C'est en effet dans la petite épicerie familiale du 3e arrondissement de Paris que vivait et travaillait la victime, un père de 2 enfants actuellement en vacances au Maroc avec leur mère. C'est une famille extrêmement sympathique, souligne une commerçante du quartier. Les Bouram habitent au-dessus de leur commerce. Ça fait 7 ans environ qu'ils sont installés là. Ils sont toujours gentils et mènent bien leurs affaires. Donc, on a bien compris, portrait d'un petit commerçant, père de famille, tranquille, sans histoire, apprécié de ses voisins. Ça, c'est dans Le Parisien. Dans Libération, voici ce que je lis. Bouram se rendait lundi après-midi à son rendez-vous avec son ami Alice, 19 ans. C'est sur les bords de la Seine qu'ils avaient pris l'habitude de se rencontrer. Ils se sont rencontrés avant Noël au Resto du Cœur. Alice aide à servir des repas. Brahim, qui dort dans la rue, vient chercher à manger. Elle lui a servi un café. Ils ont discuté des injustices. Ils se sont aimés. Se promener sur les quais quand il fait beau, il aimait bien, raconte Alice. Il était pacifiste. La seule chose en laquelle il croyait, c'était l'amour. Il était incapable de faire du mal à une mouche. Point de suspension. Chômeur et SDF, Brahim venait de demander le renouvellement de sa carte de séjour pour rester en France. Alors moi, je voudrais qu'on m'explique. Ces journalistes, qui sont formidables, qui ont une certitude absolue, c'est que Brahim Bouaram a été noyé par des skinheads du Front National, c'est-à-dire à peu près comme si on disait, je ne sais pas, des nègres blancs ou des gardes-barrières dans la marine à cheval. Hein? Eh bien, ces journalistes formidablement doués et talentueux ne sont même pas capables de nous présenter des versions cohérentes de ce qu'ils ont appris par la police. C'est-à-dire, il faudrait quand même qu'on nous dise une fois pour toutes, non que ça ait aucune importance sur le fait lui-même, mais que ça a une importance quant au crédit qu'on peut faire à certains journalistes. Il faudrait quand même qu'ils nous disent une fois pour toutes, si la victime était un honorable père de famille, petit commerçant dans le 3e arrondissement, ou si c'était un SDF qui sortait avec sa petite copine sur les quais de la Seine. Je dis bien que ça ne change rien au fait que ce garçon a été assassiné, et ça c'est scandaleux, mais le fait est que ça montre que les journalistes écrivent absolument n'importe quoi.
Et que les témoins voient n'importe quoi.
S'il y a, et que les...
s'il y a une collision entre deux voitures noires, une heure après, des gens auront vu un camion rouge écraser une voiture à cheval. Bon, on sait ça. Mais il n'en reste pas moins que les journalistes recueilleront pieusement, surtout si c'est contre le Front National, les déclarations qui sont faites et les porteront à l'écran ou à la radio devant des millions d'auditeurs et de téléspectateurs. C'est pas le journal Ouest-France a titré le Front National impliqué dans l'affaire. C'est ça ?
Oui.
Alors que le Front National n'a rien à voir avec les skinheads et que à chacune de nos manifestations, notre service d'ordre doit écarter ces éléments marginaux qui se retrouvent d'ailleurs dans le club de football de M. Jacques Chirac et de M. Rousselet, propriétaire du journal Info Matin qui a titré ce matin « Racisme sur scène ». Ils seront probablement d'ailleurs dans les tribunes, probablement sans grand risque, puisque tout le monde sait que dans les tribunes du PSG, parmi les skinheads qui sont là, la moitié d'entre eux appartiennent à la préfecture de police.
Oui, sont en tout cas payés par la préfecture. Ça
non,
coûte...
non, 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 appartiennent. Ah, oui. Appartiennent.
Alors, toujours à propos des skinheads, dans le livre, dans le journal de M. Rousselet, M. Info Matin, il y a une interview assez intéressante de Michel Vievorka, qui est directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, et qui a fait une espèce de fonds de commerce avec le Front National. Il fait partie des rares personnes qui vivent du Front National. Alors, vous savez ce qu'il dit? Et il dit une chose qui est quand même... Parce que, comme ils disent n'importe quoi, tu sais, là, il y a des moments où ils finissent par dire la vérité. C'est comme quand on jette un caillou en l'air. Forcément, un jour ou l'autre, il finira par tomber sur la tête de quelqu'un. Et là, il dit une chose, voilà. On lui dit, mais quelle relation entretiennent le Front National, enfin, les skinheads avec le Front National? Alors il répond, il sait lui aussi, il est au courant des relations, ils sont très ambivalents et épisodiques, ils sont occasionnellement utilisés par le parti pour de basses besognes, couleurs d'affiches par exemple, mais Le Pen a besoin d'une image respectable et prend soin de garder ses distances avec des skins qui de leur côté reprochent au FN de s'être embourgeoisé. Autrement dit, le Front National est copain avec les skins, mais ils peuvent pas se blairer, c'est ça la démonstration.
Vous dites les nègres blancs,
c'est ça, les gardes barrières dans
la marine.
Voilà. Alors, mais... Après, ça devient très intéressant ce qu'il dit, parce que la question est posée, selon vous, le FN a contenu la progression du mouvement skin. Et il dit, c'est l'une des explications possibles à la faible progression des skinheads. Le Front National aurait permis de limiter la pratique de la haine.
Ce qu'elle aveu ?
C'est un aveu formidable, parce que ces gens-là, les mêmes, passent leur temps à proclamer que le discours de Le Pen est porteur de haine, qu'il est porteur d'exclusion. Et là,
je voudrais faire remarquer aussi, parce que les téléspectateurs l'ont quand même vu, car il y a eu un journaliste honnête qui a filmé, j'ai vu moi, un noir avec son drapeau
tricolore,
qui agissait,
oui.
Et un certain nombre de membres noirs du service d'ordre du Front National, qui ne doivent pas plaire beaucoup, il faut bien le dire, aux skinheads, n'est-ce pas? Mais c'est ça le Front National, n'est-ce pas? Il n'y a pas de raciste au Front National. Il n'y a que la calomnie qui est lancée contre lui imperturbablement. Je pense même que si tous les assistants, n'est-ce pas, de la place de l'Opéra avaient été noirs, cela n'aurait pas empêché un certain nombre de journalistes de déclarer qu'ils avaient vu là des skinheads au crâne rasé.
Et voilà comment se termine l'article de Vievorka, enfin l'interview de Vievorka. Il ajoute, de plus, avec la profanation par des skins du cimetière juif de Carpentras en 1990, les policiers ont pu mettre à jour leurs fichiers et porter un coup au mouvement. Alors, c'est formidable parce que M. Vievorka sait que ce sont des skins qui ont profané le cimetière de Carpentras. Ça fait 5 ans qu'on attend la vérité sur cette histoire. M. Vievorka, lui, il est au courant Mais comment ça se fait que nous, on n'est pas au courant?
Eh oui. Hein? On devrait peut-être rappeler à nos auditeurs, parce que c'est la première leçon de journalisme, Victor Hugo, grand poète français, nous parlons de Carpentras, et il y a 5 ans que cela s'est produit, les jeunes en particulier ne sont pas forcément au courant de ce qui s'est passé là-bas. Au cours, très extraordinairement aussi, lors de mon passage, l'heure de vérité, n'est-ce pas, le 8 mai, eh bien... il y a des gens qui sont introduits dans le cimetière juif de Carpentras, un vieux cimetière du comtat venaissin, n'est-ce pas, et ont déterré, n'est-ce pas, sorti un cercueil et qu'ils ont brisé, ils ont sorti un cadavre de ce cercueil et immédiatement, n'est-ce pas, dès que cela a été su, le ministre de l'Intérieur, Monsieur Joch, accuse le Front National, une formidable campagne de presse est déclenchée contre le Front National, ce qui va permettre le vote de la loi Rocard-Guesson, n'est-ce pas, et permettre la mise au ban de la société politique du Front National, ça se passe en 89, et ceci pratiquement n'a jamais cessé depuis. Il y aura une gigantesque manifestation à Paris, d'ailleurs dominée par des drapeaux israéliens, pas par des drapeaux français, et pour la première fois dans l'histoire de la République, on verra le président de la République dans cette manifestation de rue.
La deuxième fois, c'est aujourd'hui même.
C'est la deuxième fois, c'est aujourd'hui même. François Mitterrand, au lieu de répondre à ma lettre, a préféré faire une nouvelle manifestation de rue. Alors, il y a quelque chose que je veux dire pour ne pas l'oublier. J'ai appris que le film de Monsieur Hanin, Le Train d'Enfer, allait être projeté ce soir, en pleine campagne électorale, n'est-ce pas ? Or, ce film, Le Train d'Enfer, est une ignominie. C'est une ignoble manipulation de la vérité. Et Monsieur, d'ailleurs, à la fin de ce film, on voit ce train dans lequel des voyous, n'est-ce pas, jette un arabe par la fenêtre, le tue en le jetant ou le poignarde et le jette par la fenêtre. On voit le sigle de la SNCF se mêler pour faire les lettres FN. Or, ce que ne savait peut-être pas Monsieur Hanin à l'époque, ou ce qu'il a soigneusement caché, c'est que le fait divers réel qui est à l'origine de ce film impliquait parmi les 3 assassins de ce jeune arabe 2 juifs. Un juif d'Afrique du Nord, je crois, et un juif espagnol ou portugais, je ne me souviens plus exactement. Voilà, autrement dit, on a transformé du tout au tout, n'est-ce pas, la réalité de ce fait, c'était en fait 3 voyous.
C'était surtout 3 ivrognes.
3 ivrognes qui étaient allés s'engager à la Légion étrangère.
Qui les avait virés.
Qui les avait virés à coups de pied dans les fesses. Et ivres, ils revenaient et ils se sont pris de gueule, comme on peut dire, avec un passager qu'ils ont tué. Eh bien, M. Hanin a voulu exploiter cela contre le Front National, alors que les criminels n'étaient pas loin de là du Front National. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de juifs au Front National, mais ça veut dire en tout cas que cela n'y était pas. Et que l'intention malveillante de M. Hanin ne s'est pas cachée, puisqu'aussi bien il a toujours dit que c'était contre le Front National qu'il avait fait ce film. Et le fait qu'on le programme demain soir est une ignominie supplémentaire qui montre bien la manipulation de l'opinion lors du deuxième tour de l'élection présidentielle. Nous sommes dans un climat goebbelsien, n'est-ce pas ? C'est la manipulation des esprits par le mensonge et la calomnie.
Alors, je voudrais, vous nous avez dit tout à l'heure que vous en diriez un mot, évoquer l'affaire de Marseille, l'affaire du meurtre d'un jeune Comorien à Marseille, et enfin en tout cas de la mort d'un jeune Comorien à Marseille, oui, tué par balle. On ne sait pas encore si c'est un accident, un meurtre, un assassinat.
Non, on est je crois sûr que, enfin, il y a une inculpation d'homicide volontaire. Mais ce qui paraît très étonnant dans cette affaire, le doute aurait pu être levé puisqu'il y a maintenant bientôt 3 mois que cela s'est produit. Et qu'il y a 3 personnes, les 3 couleurs d'affiche du Front National, qui sont en prison préventive. Dans un pays où, paraît-il, la détention préventive doit rester l'exception et où la présomption d'innocence doit rester la règle. Enfin, c'est ainsi. Or, les rapports d'autopsie, le rapport d'autopsie et le rapport de balistique n'ont pas encore été transmis au juge d'instruction. Et tout le monde dit à Marseille que ce sont 2 policiers, un très haut policier, déjà impliqué dans le douteux suicide de M. Lucet à Marseille, et son ami, dans tous les sens du terme, paraît-il, qui tiennent cette affaire sous le coude. En tous les cas, jusqu'après l'élection, d'où je tire la conclusion que si les conséquences de ces rapports devaient être nuisibles pour le Front National, il serait certainement sorti avant le premier et avant le deuxième tour de l'élection. Et s'ils ne sont pas sortis, c'est que probablement ils sont favorables aux accusés et qu'ils tendraient à prouver ce qui se dit sous le manteau, que la victime aurait été touchée par un ricochet, ce qui en toute hypothèse écarterait la volonté de meurtre, n'est-ce pas, la volonté criminelle, et qu'il faut encore prouver que la balle vienne du revolver ou du pistolet du colleur d'affiche du Front National agressé par une bande d'une dizaine ou d'une douzaine de Comoriens, n'est-ce pas ? Voilà la vérité, mais moi je ne demande qu'une chose, c'est que l'on connaisse la vérité, et s'il y a responsabilité pénale, la responsabilité pénale dans notre pays appartient à ceux qui ont commis les faits délictuels et criminels. Il n'y a pas de responsabilité collective. On ne prend pas d'otages. Nous ne sommes pas dans un certain nombre de pays où ces pratiques sont plus ou moins justifiées par la gravité des menaces qui pèsent sur la sécurité de ces pays. N'est-ce pas ? Nous sommes dans un pays en paix. Nous sommes dans un pays où la justice et la loi doivent être respectées. Mais Le Pen n'est-il pas un demi-français ? N'est-il pas un paria ? Les gens du Front National ne sont-ils pas des citoyens à demi-part ?
Ce sont des pestiférés, nous a dit M. Juppé.
Comme dirait M. Duquesne, est-ce qu'on est obligé à l'égard de ces gens-là de prendre les mêmes gants qu'avec les autres ? N'est-ce pas ? Bien sûr que non. On peut tous permettre, noter un émule de M. Vievorka dans une analyse sociologique sur le Front National, avec Jean-Marie Le Pen, on peut tous permettre.
Alors, ce qui concerne l'affaire de Marseille, dont les résultats de l'autopsie sont gardés secrets, je voudrais rappeler, à propos de Carpentras, une phrase qui a été prononcée par M. Georges Brun. M. Georges Brun est l'auteur d'un livre très informé sur les Juifs du comtat venaissin qui s'appelle « Les Juifs de Carpentras ». Et il s'était manifesté à l'époque de l'affaire de Carpentras. Et voilà ce qu'il a déclaré à l'événement du jeudi, le 12 juillet 1990. Il a dit « Je ne tiens pas à ce qu'on retrouve les coupables, cela dédouanerait l'extrême droite et cela empoisonnerait le climat. » Alors,
l'aveu est de taille.
L'aveu est de taille et il est d'autant plus intéressant à retenir et à retenir longtemps que, en réalité, les policiers marseillais, les policiers de la région, qui ont été chargés par M. Jox d'enquêter, et qui, au compte de 60, ont pendant plusieurs semaines, près de 3 mois, enquêté dans tous les milieux de la droite, de l'extrême droite, des groupuscules nationalistes, des skinheads, ont fait des centaines d'interpellations, ont fait des dizaines de perquisitions, ont saisi des centaines et des centaines de documents dans les différents locaux des organisations de la droite et de l'extrême droite et des organisations nationalistes, n'ont rien trouvé. Rien. Absolument rien trouvé.
Eh bien, c'est bien la preuve de la culpabilité de Le Pen, ça, mon cher ami.
En revanche, il y a quelques mois, à la suite d'une affaire de trafic de drogue, ils se sont rendus chez un jeune homme qui a été mis en arrestation pour avoir importé de la drogue de Hollande et en avoir fait le commerce. Et chez ce jeune homme, ils ont trouvé des photographies qui prouvaient de façon définitive que ce jeune homme avait organisé des cérémonies scabreuses, morbides, ignobles, sataniques, dans le cimetière juif de Carpentras. Ce que l'on savait depuis les débuts de l'enquête, puisque les débuts de l'enquête avaient établi qu'un groupe de jeunes gens venait faire des parties sataniques dans le cimetière de Carpentras. Et l'affaire n'a pas eu de suite en raison de la personnalité de ce jeune homme, qui est le fils d'une personnalité religieuse de Marseille. Et je peux vous dire que c'est le fils d'une personnalité religieuse, ça veut dire que ça n'est pas le fils d'un prêtre catholique, et je vous laisse deviner pour la suite ce que ça peut bien être pour que je dise que c'est confirmé. Ça vient confirmer en quelque sorte le propos de M. Brun, Je ne tiens pas à ce qu'on retrouve les coupables, cela dédouanerait l'extrême droite et cela empoisonnerait le climat. La vérité, c'est que depuis 5 ans à peu près, on sait qui a fait le coup de Carpentras. Et je suis certain que depuis quelques jours après l'affaire de Marseille, on sait qu'il s'agit d'un accident. Maintenant, il s'agit de savoir combien de temps on va nous faire lanterner avant de reconnaître que les skinheads ou supposés skinheads
si tant est qu'on les retrouve jamais,
ce dont je doute, moi je suis un petit peu d'un style incroyant.
Oui, moi aussi.
Si tant est qu'on les retrouve jamais, il va falloir nous démontrer qu'ils ont une carte du Front National, à condition qu'elle n'ait pas été fabriquée dans les 2 jours qui ont précédé l'incident.
Oui, mais vous avez bien vu que le rappel d'un certain nombre d'incidents sans commune mesure d'ailleurs, de coups montés contre le Front National comme l'affaire Dauch, justifie l'interrogation grave que se pose un certain nombre de commentateurs. Je ne parle pas du trotskiste Drey, qui est un agitateur politique devenu député socialiste, n'est-ce pas? Mais des observateurs disent, mais ne faut-il pas reconsidérer la légalité du Front National et peut-être, pourquoi pas, sa dissolution? Ben, il est évident, quand le peuple réserve 44% des voix aux 2 candidats à la présidence, on pourrait changer de peuple, n'est-ce pas?
Vous savez, ça fait tout à fait penser à... Enfin, ça me rappelle cette affaire qui s'était déroulée à la fête de l'humanité il y a quelques années, où la fête passée, on avait trouvé le cadavre d'un Portugais qui avait été tué à coups de barres de fer et de matraque, et dont on a su, par des indiscrétions policières, qu'il avait été tout simplement massacré par le service d'ordre du Parti communiste, parce qu'il avait eu une attitude qui avait été jugée déplaisante dans le cadre de la fête. Eh bien, je vous mets au défi de trouver dans la presse de l'époque plus de 3 lignes sur cette affaire.
Oui, oui, on n'a pas non plus, à l'occasion de cette affaire, rappelé la tuerie d'Auriol, où le service d'ordre du RPR avait massacré toute une famille, dont un petit garçon de 7 ans, lui fracassant la tête contre les murs. De cela, on ne peut pas parler, puisque M. Chirac fait partie du Sérail. Lui n'est pas exposé à ces campagnes de diffamation, à moins que ce ne soit la crainte de ces campagnes de diffamation qui mettent toute la classe politique française à genoux dans la crainte d'être traité comme un vulgaire Le Pen.
Ben, ça rejoint cette question que vous posez, rejoint la question que pose Alain Sanders dans le numéro de Présent d'aujourd'hui. Montage Carpentras sur scène, qui donc l'organise? Je trouve que c'est une très très bonne question, il faut remercier Sanders de l'avoir posé. Mais le titre de, et on va y venir si vous le voulez, le titre de Présent, c'est la nullité des 2 complices, et donc il s'agit du débat. Alors, je voudrais savoir ce que vous pensez de ce débat. Vous l'avez regardé, puisque vous aviez annoncé publiquement que vous le regarderiez.
Je ne m'interdis pas de répondre à votre question, mais je ne vous dirai pas, parce que là, en revanche, je me suis engagé à ne pas le dire ailleurs que là où je suis invité tout à l'heure, c'est-à-dire sur TF1, publicité non payée, n'est-ce pas? Vous savez que Jean-Marie Le Pen tient ses promesses, et que par conséquent, je ne vous dirai pas, avant ce soir 20h, ce que je ferai moi-même, qui constituera un espèce de signe pour un certain nombre de centaines de milliers, peut-être même de millions de téléspectateurs ou d'auditeurs.
Mais Jean-Marie Le Pen, pardon de vous interrompre, si vous ne voulez pas me dire ce que vous allez faire, vous pouvez peut-être me dire ce que vous ne ferez pas.
Non, je ne vais pas vous dire, mais je vais me permettre de porter un jugement, puisque aussi bien je suis un citoyen comme les autres, enfin du moins je le crois. Et d'abord je note que l'audience cumulée des 2 personnages les plus importants de la vie politique de cette semaine, mais rassurez-vous, de cette semaine seulement, est de 16 millions de téléspectateurs. C'est-à-dire que sur 60 millions d'habitants en France, il y a 16 millions qui ont regardé le débat. Je dois vous dire, je le confesse, et sans doute vais-je être jugé sévèrement par ceux qui m'aiment. De temps en temps, j'ai zappé. J'ai zappé pour me réveiller.
Surtout qu'il y avait du cirque sur la 3.
Et il y avait un superbe cirque sur la 3, et il y avait une émission magnifique sur les albatros royaux. Et d'ailleurs, oui. On aurait bien voulu que le débat soit de cette qualité-là, on les entendait...
Ça faisait à peu près le même
avec
point.
Leur bec, n'est-ce pas, faire des espèces de duels de langue de bois, n'est-ce pas, à la manière des cigognes. Et de temps en temps, je dois dire, je m'aérais l'esprit, tant j'étais stupéfait de la nullité du débat. Un débat de hauts fonctionnaires, mais pas de directeur de ministère. Un débat de chef de service de ministère, s'opposant les circulaires les uns aux autres, non d'ailleurs sans se faire des ronds de jambes, excusez-moi si je vous demande pardon, mais je suis tout à fait de votre avis, mon cher, ce qui confortait tout ce que j'ai dit pendant la campagne. Je ne vois pas de différence entre ces gens-là, et quand j'ai demandé à M. Brisseau, qui était à côté de moi, le mari de la très jolie Sophie, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, bah écoute, j'ai retenu deux mots, il y en a un qui est pour la CSG, et l'autre qui est pour la TVA. Voilà ce que je retiens du 2 heures de débat des deux personnages les plus importants de la semaine.
Et puis il y en a un qui est pour 5 ans. L'argument principal de Jospin, c'est quand même, vous ne m'aurez que pour 5 ans.
Ah oui, mais c'est pas nul, ça.
Oui, mais... C'est celui qui m'a le plus frappé.
C'est le meilleur argument de Jospin.
Tout à fait.
C'est vrai.
Et c'est un argument assez convaincant. Enfin, en ce qui me concerne, je l'ai trouvé tout à fait convaincant. C'est vrai que si on vous dit on va vous taper sur la gueule pendant 5 ans ou on va vous taper sur la gueule pendant 7 ans, choisissez.
Oui.
Eh bien, écoutez, je préfère en prendre pour 5 ans.
Oui, bien sûr.
Mais ça, c'est, encore une fois, c'est mon opinion personnelle.
Mais il y a beaucoup d'auditeurs qui sont inquiets, qui se disent que si Jospin était élu, Radio Courtoisie serait supprimée.
Si Mitterrand était élu, Radio Courtoisie n'a pas été supprimée.
Ah ben voilà, là, il y a beaucoup d'inquiétudes à ce sujet-là. Moi, j'aurais plutôt des inquiétudes de l'autre côté, mais enfin, ça n'a pas l'air d'être celle des auditeurs. Merci.
Abandonner le vieil homme.
Non, si je peux me permettre une opinion personnelle, et qui va paraître une fois de plus complètement insupportable à beaucoup d'auditeurs, je dirais que c'est très important, Radio Courtoisie. Pour moi aussi, c'est capital. Ça fait 6 ans que je fais 3 heures par semaine avec un immense bonheur. Je suis très content d'être là, et j'espère que ça durera encore très 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 longtemps. Mais j'ai pas l'impression quand même que la survie même de Radio Courtoisie soit le seul argument qu'on puisse retenir pour accomplir un acte civique qui va engager l'avenir de la France pour au moins 5 ans, et au pire 7 ans. Voilà ce que je crois. C'est vrai que c'est très important, mais enfin, il y a quand même d'autres considérations à prendre en... d'autres phénomènes, d'autres faits, d'autres idées à prendre en considération. Je crois que...
Il y a combien de temps qu'existe Radio Courtoisie?
Oh, il y a bientôt 7 ans.
Eh ben, c'est 7 ans de socialisme.
Oui.
C'est 7 ans de mitterrandisme.
Oui. Tout à fait.
Bon,
tout à fait.
Ce que je sais, moi, ce qui concerne le Front National, c'est que je ne dis pas que la disparition du Front National ne réjouirait pas les socialistes. Mais ce que je sais, c'est que sa disparition est programmée par les Chiraciens, puisque non seulement ils n'ont pas l'intention d'introduire la moindre dose que ce soit de proportionnel aux élections législatives, mais qu'ils ont l'intention de supprimer la proportionnelle aux élections européennes et de supprimer la proportionnelle aux élections régionales. Dans le but d'étouffer, c'est M. Séguin qui en a fait l'aveu, d'étouffer le Front National.
Ce qui revient à nier l'existence, c'est du négationnisme du Front National, c'est-à-dire, en gros, 5 millions de Français, qui sont adhérents, militants, sympathisants ou électeurs du Front National. 4 575 000, si on veut des chiffres précis. Et un ami s'est livré un petit travail que je vous livre, Jean-Marie Le Pen. Il a dit, voilà, si on faire fi de ces voix, de ces 4 575 000 exemplaires, c'est déclarer mort tous les enfants, tous les étudiants, tous les travailleurs, tous les retraités de 2 villes comme Paris, ou de 17 villes comme Strasbourg, de 40 villes comme Corse, de 54 Avignon, de 108 Saint-Germain-en-Laye, de 125 Dreux, 160 Château, 300 communes comme La Baule, et 4200 villages comparables à Valois en Savoie. Ah, il a raison de dire que parmi ces électeurs, il y a des mères de famille, des travailleurs manuels, des enseignants, des paysans, des marins-pêcheurs, des avocats, des médecins, des religieux, c'est-à-dire des gens tout à fait respectables. Et au nom de quoi décrète-t-on que ces gens doivent être négationnés?
Ils ne sont pas politically correct. Ils ne sont pas politiquement corrects. C'est le décret de la police de la pensée. Il faut qu'il fasse amende honorable, que M. Le Pen vienne se prosterner dans un certain nombre de lieux du culte, comme l'ont déjà fait les autres hommes politiques français. Pourquoi ne le fait-il pas?
Tous ne l'ont pas fait. Je rappelle que François Mitterrand, à qui on posait ce genre de questions, avait dit « Mais qu'est-ce que vous attendez que je me convertisse ?» Et pour autant que je sache, il ne l'a pas encore fait, malgré les objurgations de M. El Kabbach. Voilà. Pour revenir, non pas au débat, mais à la campagne. Parce que le débat, je crois qu'il n'y a plus rien à en dire, à moins que vous ayez...
Écoutez,
ça tombe des yeux.
Oui. Les oreilles me tombent.
En revanche, sur la campagne, j'aimerais bien que vous nous disiez quel bilan vous en tirez, vous, de cette campagne, à tout point de vue.
Je crois qu'elle a été profondément faussée, au point que, normalement, un conseil constitutionnel devrait annuler cette élection, puisque les sondages m'ont écarté de ce qu'on peut appeler du peloton des grands, où j'ai pourtant fait mon entrée, n'est-ce pas, dans les résultats. Mais la conséquence de cela, c'est que pendant 3 mois, janvier, février et mars, les 3 candidats dits principaux et classés comme tels par de faux sondages ont eu le quasi-monopole, non pas le monopole, mais le quasi-monopole des espaces médiatiques. Dans le Figaro Madame, on parlait de Madame Chirac, de Madame Balladur, de Madame Jospin. Dans le journal pour enfants, on parlait des bébés de la famille. Dans le journal d'animaux, on parlait de leurs chiens. Les autres candidats, et en particulier Jean-Marie Le Pen, qui était dans le peloton, étaient tenus à l'écart. Et il est bien évident que si j'avais eu la possibilité de m'exprimer comme eux, j'aurais gagné au moins 3 ou 4 points. Je n'aurais peut-être pas été dans les 2 premiers, mais j'aurais certainement amélioré de beaucoup mon audience. Alors, et puis on ne sait pas ce qui aurait pu se produire. Si les sondages n'avaient pas été manipulés, après tout, peut-être que M. Balladur serait arrivé devant M. Chirac, peut-être que moi-même, je serais arrivé devant M. Chirac, qui le sait. Notons au passage qu'il arrive, la première fois, 5 points devant moi, après avoir fait une campagne qu'il a décrite lui-même comme admirable et dynamique. Et alors qu'il a 500 députés qu'il soutient, n'est-ce pas, ou en tous les cas 400, un cabinet personnel de 300 personnes, 100 conseillers municipaux, 400 conseillers d'arrondissement de Paris, etc., 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 et à sa disposition tout l'appareil bureaucratique, administratif, et qu'il critique d'ailleurs sévèrement comme candidat à la présidence de la République, mais sans tout de même s'en priver, il faut bien le dire.
Pardon, je lis les questions qui arrivent. Oui, je voudrais que vous répondiez, s'il vous plaît, à une question qui revient très 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 souvent et qui concerne le rôle de M. Pasqua. J'ai encore une lettre là d'un auditeur qui dit, moi je ne comprends pas, vous avez annoncé la semaine dernière que finalement vous iriez voter pour M. Jospin, mais j'ai dit pourquoi, moi j'ai dit que comme je suis, ces gens-là m'ont décrété pestiféré. Mais comme c'est quand même des gens qui sont assez proches de moi, je parle des Chiraciens, je ne vais pas aller leur apporter la peste en votant pour eux. Je préfère apporter la peste aux gens que je déteste et qui sont les socialistes, ça c'est clair. Donc cet auditeur me dit, mais comment pouvez-vous avoir une attitude pareille alors que quand même, dans les rangs de M. Chirac, ou les ralliés de M. Chirac, il y a quelqu'un comme M. Pasqua, qui, par tous les moyens, a tenté de limiter l'immigration, et qui est quand même très proche de nos idées.
Alors, pas vrai.
J'aimerais bien que vous répondiez à cet argument, qui est très répandu.
Mais ça, je dois dire que M. Pasqua est un homme de communication excellent, et qui sait bien vendre son ours, n'est-ce pas? Mais la politique de M. Pasqua, qui est la politique de M. Balladur, qui est la politique de M. Chirac, qui est la politique de M. Mitterrand à l'égard de l'immigration, c'est de la gesticulation verbale. N'est-ce pas? Il faut que les Français sachent, car le problème n'a pas été abordé hier. On a parlé simplement d'immigration clandestine. Tout le monde est d'accord, tout le monde est contre l'immigration clandestine, mais personne ne fait rien ou n'est capable de faire quoi que ce soit pour l'empêcher. Bon. Mais il y a au moins une immigration qu'on pourrait interdire, c'est l'immigration légale. Or, dans les 2 dernières années, M. Pasqua étant ministre de l'Intérieur, M. Balladur, Premier ministre, et M. Chirac, chef de la majorité, eh bien, il est entré par an, d'abord, 135 000 immigrants légaux, plus 20 000 étudiants qui ne rentreront jamais chez eux se mettre à la disposition de leur pays et de leur peuple, n'est-ce pas ? Plus 100 000 naissances étrangères, c'est-à-dire que les étrangers sont 250 000 de plus par an légaux. Or, rien n'a été fait dans ce domaine. Rien n'a été fait pour supprimer les pompes aspirantes que constitue l'égalité de traitement social dans tous les domaines, allocation familiale, aide sociale, aide au logement, etc., etc., et l'absence de politique de préférence nationale dans tous les domaines, emploi, logement, etc. Bon, c'est une politique de préférence étrangère qui est pratiquée par M. Pasqua. Alors, il a fait quelques numéros que l'extrême-gauche a la gentillesse de bien vouloir relever pour donner à M. Pasqua une réputation, une dimension et un volume qui sont ceux d'une baudruche politique sur ce terrain-là. Je ne dis pas que M. Pasqua soit un homme habile, intelligent, etc. Mais je nie tout à fait que ce soit quelqu'un d'efficace dans le domaine de l'immigration.
Quant à sa communauté de valeurs avec le Front National...
Écoutez, il me semble que M. Pasqua, dans ce domaine, a une communauté de valeurs à géométrie variable, puisqu'aussi bien, il ne fait pas mystère d'avoir à son cabinet un M. Gobert, qui est chargé, d'après M. Gobert en tout cas, de la traque des nationalistes français, nationalistes et nationaux, n'est-ce pas, qui sont de ce fait même réputés racistes, xénophobes et antisémites. La célèbre trilogie qui emporte condamnation à vie et peut-être même à mort, qui sait.
Jean-Marie Le Pen, quoi qu'il arrive, le 7 mai, le mois de juin connaîtra des élections. Ça sera, si Jospin est élu, des législatives et des municipales, si Chirac est élu, seulement des municipales.
Nous ne sommes pas sortis de la spirale électorale. Et si c'était le moyen de sortir de la décadence, mais me semble-t-il, la situation n'a pas atteint encore, bien qu'elle soit dramatique, un degré de problème, puisqu'il ne donne encore que 15% de voix à Jean-Marie Le Pen et au Front National. Il faudra bien un jour que cela change. Je voudrais bien que ce soit avant qu'il ne soit trop tard, avant que la France ait été submergée par l'immigration étrangère, par la montée par capillarité, aussi bien externe qu'interne, et à un moment où il ne serait plus possible de résister. D'ailleurs, à l'occasion de, je vais dire quand même un événement, parce que comme j'ai dit que c'était un incident qu'on m'a critiqué, du très grand événement qu'a constitué la mort du jeune Marocain, à l'occasion de cet événement, on a entendu un certain nombre de déclarations particulièrement inquiétantes. Je tiens à le dire, pas celle de la famille, n'est-ce pas, qui s'est refusée à confier le soin de les défendre à ce Fodécila, qui est un agitateur et un faiseur de guerre civile, n'est-ce pas, non plus d'ailleurs à des avocats d'extrême-gauche, mais à l'ambassade du Maroc, laquelle a eu une attitude tout à fait réservée. Mais j'ai été extrêmement étonné d'entendre le discours menaçant
du recteur de la mosquée de Paris,
oui. N'est-ce pas, comportant des menaces de représailles qui auraient lieu sur des gens qui ou des gens que, quels que soient les criminels qui ont commis ce crime, ils doivent être jugés et condamnés par les tribunaux français. Et pas par des représailles aux ordres de M. Boubacar.
Si je me souviens bien, M. Boubacar a dit que les jeunes musulmans ne se laisseraient pas faire, ou ne sauraient répondre. Bon. Alors, simplement, ça paraît maintenant, c'est le genre de propos qui paraît totalement normal dans notre société. Est-ce qu'on imagine simplement qu'un catholique ayant été assassiné, ce qui arrive à peu près une fois tous les deux jours, statistiquement, le cardinal Lustiger s'expriment devant les caméras de télévision et disent les jeunes catholiques ne se laisseront pas faire et les jeunes catholiques sauront tirer vengeance des crimes qui sont commis par eux, contre eux par tel et tel groupe social. Ça serait un événement absolument énorme.
Bien sûr.
Eh bien, apparemment, ça ne suppose pas la réciprocité quand c'est M. Boubaker, recteur de la mosquée de Paris. Donc on voit bien quand
il y a un certain nombre de gens qui poussent au durcissement. Il y a un certain nombre de gens qui cherchent à déclencher des ruptures dans notre société. Et moi, je pense que l'affaire du pont du Carrousel est un crime politique. C'est un crime politique perpétré sciemment, et cela constitue peut-être même un véritable complot dans le but, bien sûr, de discréditer le Front National et Le Pen, mais cela, il y a tellement eu d'expériences identiques faites que l'opinion est blindée, mais peut-être d'amener des violences, en particulier de la part de l'organisation terroriste SCALP, n'est-ce pas, car c'est des membres de l'organisation terroriste SCALP, la même qui déroulait les banderoles place de l'Opéra, du toit de l'Opéra et du balcon de l'hôtel, ce sont eux qui ont tué les policiers de la porte de Vincennes, n'est-ce pas ? Ce sont des membres de cette organisation, dite section carrément anti-Le Pen, ce sont des organisations d'extrémistes, dont on s'étonne d'ailleurs qu'ils soient les protégés de la police, car tous ces gens-là, oui, tous ces mouvements, n'est-ce pas, qui appellent à la manifestation contre Le Pen, contre le racisme, etc., sont des organisations grassement subventionnées par l'État, par les villes, par les conseils généraux, par les conseils régionaux. Monsieur Fodécila et les présidents, la LICRA et le MRAP et toutes ces organisations sont grassement subventionnées.
Je rappelle que les militants du SCALP qui ont organisé la petite manifestation sur le toit de l'Opéra donnent ce matin une interview à Libération dans laquelle ils disent, eux, c'est ces personnes d'autres qui racontent ça, c'est les gens qui ont fait ça, qui disent, après avoir fait ça, on a été caché par le service de sécurité de l'Opéra dans les couloirs de l'Opéra, et ensuite on a été récupéré par des policiers qui nous ont emmenés très gentiment dans des cars avec une escorte policière de motards et de voitures jusqu'à un commissariat où on nous a cachés, où on nous a mis à l'abri. Le gars qui dit ça dit qu'il ne s'agissait pas d'une garde à vue. Donc il s'agissait bien de protéger des gens. Autrement dit, là il y a une preuve, un aveu tout à fait clair d'un des membres d'une organisation terroriste dont, absolument, effectivement, d'autres membres ont commis le crime de Vincennes, un aveu de la complicité policière avec ces gangs.
Oui, je voudrais ajouter que l'organe de ce mouvement, n'est-ce pas, donne rendez-vous demain ou après-demain, savez-vous où, n'est-ce pas, cette rue du Dragon, n'est-ce pas, où se trouve soi-disant le siège du DAL, n'est-ce pas, tout le monde sait que s'il part un mouvement du style mai 68 à Paris, il partira du 7 de la rue du Dragon, ou à l'abri de M. Schwarzenberg et de l'évêque, de l'ex-évêque d'Évreux, eh bien, sont réunies des organisations trotskistes, anarchistes et activistes qui ne cachent pas leurs intentions de violence. Mais elles, tout à fait impunément, et comme vous le dites, d'ailleurs, comme elles le disent elles-mêmes, sous la protection de la police.
Jean-Marie Le Pen, je voudrais, avant de vous libérer, parce que je crois que vous allez... je sais que vous allez à TF1... vous avez le temps encore,
bon,
c'est parfait, parfait. Alors, je voudrais revenir sur la question des législatives, non pas des législatives, des municipales. Parce qu'il y a une chose que les auditeurs comprennent mal, c'est comment il est possible que, ayant eu la première place dans beaucoup de villes de France, vous en avez donné la liste à l'Opéra, plus de 100 villes et villages de France, et comment il se fait que... plus de 100 villes de France. Comment se fait-il que, ayant la majorité dans des élections comme l'élection présidentielle, il soit, semble-t-il, si difficile de constituer des majorités municipales?
Eh bien, d'abord parce que nous nous heurtons, comme aux élections législatives d'ailleurs, à l'alliance dite Front Républicain qui va des communistes au RPR. Il faut se souvenir qu'en 93, Par exemple, dans beaucoup de villes ou de circonscriptions où nous étions arrivés en tête, le RPR, l'UDF se sont unis aux socialistes et aux communistes pour faire battre nos candidats au deuxième tour. C'est ainsi que Mme Roussel a été battue par le communiste Hermier à l'appel de M. Gaudin, sénateur UDF. C'est ainsi que Mme Stirbois a été battue de quelques dizaines de voix à l'appel des communistes socialistes pour le RPR, et ainsi dans beaucoup de villes. Or, je voudrais vous rappeler qu'en 1988, quand, après la victoire de Mitterrand, on pouvait s'attendre à une vague socialiste aux élections législatives, eh bien, dans l'intérêt du pays, et alors que les RPR et l'UDF pratiquaient la même méthode qu'ils pratiquent uniment, d'ailleurs tout le temps à notre égard, j'avais cependant fait voter pour le RPR et l'UDF pour éviter à la France une majorité absolue socialo-communiste aux élections. Je ne le ferai plus.
Alors justement, hier Chirac dans le débat a dit que dans l'hypothèse où Jospin serait élu et organiserait des législatives, il se retrouverait avec une assemblée à majorité de droite et qu'il serait obligé de consentir à une troisième cohabitation. Quelle est votre impression? Vous, parce que je sais que vous connaissez parfaitement la carte politique.
Vous savez qu'il y a 80% de l'Assemblée qui est composée par le RPR et l'UDF. 230 ou 250 de ces députés sont élus à quelques dizaines ou à quelques centaines de voix qui mordront la poussière dès qu'il y a une élection nouvelle. Et quel que soit le vainqueur, s'il y a une dissolution, 200 députés de la majorité, peut-être plus, mordront la poussière. Et cela dépendra des électeurs du Front National, une fois encore. Et la même hypothèse se reproduit et que le RPR et l'UDF ne changent pas de politique à notre égard, il leur en cuira. Voilà, c'est clair, net et précis.
C'est pas de la langue de bois. Victoria.
Plus de la langue de veau.
Victoria, il y a beaucoup de énormément.
Je suis complètement noyée dans les messages.
D'appels d'auditeurs.
Excusez-moi de vous poser une question.
Oui.
Parce qu'à chaque fois que je viens ici, je vois un déferlement
de
courriers divers. Mais vous le classez, c'est très bien. Et qu'est-ce que ça devient?
Après, on le dit, par exemple. Moi, j'attends.
On s'en sert pour formuler les questions.
J'attends avec intérêt le moment où je vais pouvoir me glisser dans la conversation. C'est dur, c'est très dur avec vous deux, là. Je ne peux même pas dire que, Monsieur Le Pen, nous ne sommes pas dupes devant toutes les magouilles contre vous. Sachez que nous sommes avec vous, que les personnes qui ne votent pas pour vous sont scandalisées de ce qu'on vous fait. C'est inadmissible, les Français ouvrent les yeux, il y en aura de plus en plus qui vous soutiendront et se rallieront à vous.
Bon, mais je suis convaincu que cet épisode présidentiel est dans l'histoire du pays dérisoire et qu'après lui, il y aura encore un avenir pour la France, et je pense que nous représentons la partie la plus importante de cet espoir.
Vous savez, il y a des leçons que certains devraient méditer. Je vous redonne la parole tout de suite, Victoria. Il y a des leçons que certains devraient méditer. Et ils devraient lire un ouvrage qui paraît tous les ans, qui s'appelle « L'année en perspective ». C'est l'album de l'année de Spectacle du Monde. Et j'ai retrouvé l'album de l'année de 1990, dans lequel il était question donc de l'affaire Carpentras.
C'était encore le temps où ces journaux parlaient de moi.
C'était l'époque où ces journaux parlaient de moi.
Oui, au temps de Raymond Bourgine. Ça a bien changé depuis.
Oui.
Alors, ils ont publié une courbe de popularité, d'intention, pardon, non pas de popularité, mais d'intention de vote en faveur du Front National. Alors, on s'aperçoit qu'au lendemain, que l'affaire de Carpentras éclate, alors que en 3 mois, le Front National est passé de 10% à 18% des intentions de vote. En février, il est 10%, en mai, il est de 18%. Le taux des intentions de vote est de 18%. Et à ce moment-là, éclate l'affaire de Carpentras. Et l'affaire de Carpentras va avoir un effet immédiat, c'est que la courbe va redescendre à 11%. Et puis, il va avoir un effet différé. C'est qu'en juillet, la courbe est remontée à 14%. Et qu'en novembre, la courbe est à 20%. Autrement dit, on sent qu'il se passe une chose et on le constate à chaque fois. Le premier choc est un choc émotionnel en quelque sorte, un choc de repli de l'électorat qui semble blessé par le raffut fait autour d'un montage médiatique. Et puis il se reprend, il analyse la situation, il s'aperçoit qu'il a été grugé, et là il y a une réaction qui fait que il y a au contraire un renforcement de l'électorat favorable. Je pense que ça va encore se produire cette fois-ci, et si on s'en réfère à ce qui s'est passé en 90, on peut espérer qu'au mois de juin, les Français auront eu le temps de récupérer.
Eh oui, le pauvre Pompon, il faudra qu'il attende que la pomponnette soit revenue à la maison et qu'elle comprenne, enfin.
Alors, Victoria, d'autres questions?
Mais quelqu'un vous demande, que pensez-vous du dialogue qui a eu lieu hier soir sur LCI entre Jean-Yves Le Gallou et Faudécile? Est-ce que vous avez l'intention de porter plainte? Parce qu'on vous a traité, on a dit que vous aviez du sang, enfin vous, Jean-Yves Le Gallou, vous aviez du sang sur les mains. Et actuellement, dans la manifestation
oui,
à l'Opéra,
Madame Victoria, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Ce sont des dialogues africains.
C'est la palabre.
En ce moment, sur le...
C'est la palabre. Alors, voyez-vous, évidemment, dans le cadre de loi, du droit, tout ça n'est pas bon. Mais, enfin, voyons, voyons, je te le dis.
Oui, bien sûr, mais enfin, voilà, bon, mais...
La réponse est à la hauteur de l'agression.
Oui, mais on en prend plein la figure, hein. Je suis d'une politesse exquise, là. Nous qui vous soutenons, qui pensons comme vous.
Oui,
Moi, je crois que M. Faudécile travaille bien pour le Front National. Moi, oui. Je pense qu'il faut qu'il continue comme ça. Il est dans son rôle d'agitateur, de... Non, mais c'est très bien.
Je pense effectivement qu'il fait partie de ces gens. Il y en a quelques-uns comme ça qui, chaque fois qu'ils viennent à la télévision exprimer leur haine
du français... Et puis, il faut dire la vérité, il est quand même moins bon que Harlem.
Honnêtement, oui.
Oui, honnêtement, par conséquent, le diable porte pierre.
Très bien, alors, on ne lui en veut pas. Il y a des questions à propos du vote de dimanche, je suis désolée, mais ils vous demandent des conseils. Ils ne vous demandent pas comment vous allez voter, ils demandent des conseils. Ils vous disent par exemple, est-ce qu'il faut voter blanc ou est-ce qu'il faut voter nul? Pour ceux qui veulent s'abstenir.
Écoutez, qui regarde TF1 tout à l'heure.
Oui.
J'espère que vous ne vous plaindrez pas de la concurrence.
Non, nous, ça nous est égal, on a fini à 7h30, c'est M. Amis.
Rassurez-vous, ça ne durera que quelques minutes.
Je ne me plains pas de la concurrence, mais... je suis assez flatté que cette émission soit considérée comme le prime time du journal télévisé de TF1.
Vous êtes la vedette américaine de cette soirée.
Donc, Christophe de Chavannes, c'est ça, Christophe de Chavannes est sur TF1, non? Je ne sais jamais sur quoi il est.
Je ne sais pas. Je peux dire alors uniquement les messages de sympathie.
Mais non, dites-nous des choses, au contraire, quelques questions méchantes.
Ben oui, mais c'est encore sur le vote.
Ah non, pas sur le vote.
Alors là, les gens qui vous disent, si Jospin est élu, donc ça tient, c'est une question. Si Jospin est élu, en cas de dissolution de l'Assemblée, pourrait-on espérer avoir des députés du Front?
Bah ouais. Même au majoritaire.
Même au majoritaire, alors.
Bah ça dépend, si imaginons par exemple qu'un peu de plomb... entra dans la tête de la majorité risquant de ne plus l'être. Ben peut-être que le Front National serait remis à la place qui est la sienne. Non, point d'alliés, ni pour faire une politique commune impossible avec un certain nombre de gens qui ont des idées antinomiques des nôtres. Mais dans le cadre de ce qu'on appelait autrefois la discipline nationale, c'est-à-dire la défense de la droite contre la gauche. Si la gauche leur fait si peur, eh bien, aux élections législatives, on aurait l'occasion, en effet, d'obtenir des sièges à proportion, à l'intérieur de la majorité, à proportion de notre importance.
Jean-Marie Le Pen, vous demandiez une question méchante. Alors, je vais vous poser une question. Je ne sais pas si elle sera méchante, mais elle sera peut-être embarrassante. C'est une question personnelle. Est-ce que votre avenir politique, pas seulement en politique, mais votre avenir... comme homme dans la mémoire des gens qui vous ont fait confiance depuis des années, est-ce que la préservation de cet avenir joue un rôle déterminant dans le choix que vous allez donner tout à l'heure sur TF1?
Mon avenir personnel?
Pas votre avenir politique. Je dirais, est-ce que vous... Bon, je vais être plus clair. Je ne sais pas du tout ce que vous allez faire, mais je sais par le courrier que je reçois et par les interventions des auditeurs que beaucoup d'auditeurs serait choqué que vous disiez je vais voter Jospin, et que beaucoup d'auditeurs également seraient déçus que vous disiez je vais voter Chirac. Il y a beaucoup de lettres d'auditeurs qui disent de toute façon quoi qu'ils disent, moi je ne voterai jamais pour Chirac, et d'autres qui disent moi je ne peux pas me résoudre à voter pour Jospin, je voterai Le Pen, je voterai Jeanne d'Arc, je voterai Blanc, je voterai nul, etc.
Cela n'attend pas que je leur dise ce qu'il faut voter, puisqu'aussi bien, ce qui est assez sage, qu'ils savent déjà ce qu'ils ne feront pas.
Ça, c'est ceux qui savent. Il y a aussi tous ceux qui disent, par pitié, dites-nous ce qu'il faut faire, parce que vous avez un meilleur jugement que nous, et c'est pour ça qu'on vous suit, d'ailleurs. Mais non, la question que je veux poser, c'est celle-là. Quels sont les critères? D'abord, est-ce que le débat d'hier a été réellement déterminant, puisque vous nous avez dit lundi que vous attendiez le débat pour démocratiquement faire votre choix? Alors, est-ce que ça a joué un rôle
aussi que j'attendais un éclair.
Oui.
Et je n'ai même pas eu une lueur. Le débat n'a fait que confirmer ce que je pensais, à savoir qu'il s'agissait de bonnet rose et rose bonnet, ou bonnet d'âne et bonnet de nuit, si vous voulez.
Mais à part... Donc, ce débat n'a effectivement rien changé. Ça veut dire que votre choix sera fondé sur quels critères, au fond?
Les critères de l'intérêt national, les critères de l'existence du mouvement national dans la société politique d'aujourd'hui et de demain, parce que nous avons mis 20 ans à construire un mouvement national capable d'interpréter la volonté de millions de nos concitoyens. Et évidemment, c'est beaucoup moins important que l'avenir de la France, mais il n'y a pas d'avenir pour la France s'il n'y a pas d'avenir pour le mouvement national, qui est son meilleur défenseur. Par conséquent, je tiens compte, évidemment, de ces choses-là, et de la volonté, disons, d'élimination, qui s'est révélée, en particulier, dans l'état-major du RPR.
Oui. Bien, eh bien écoutez, je crois qu'on est allé aussi loin qu'on pouvait aller.
Jusqu'à l'extrême limite.
Combien faudrait-il d'abstention pour que l'élection n'ait pas lieu?
Oui, à mon avis,
il n'y aura probablement
pas. Oui, les gens qui attendront un chiffre significatif d'abstention, à moins que vraiment, ça serait un phénomène. S'il n'y avait plus d'abstention au deuxième tour, qu'il n'y en a eu au premier tour, alors que d'habitude, il y a toujours moins d'abstention au deuxième tour qu'au premier, n'est-ce pas? Ça sera un fait extraordinaire. Mais encore une fois, je ne crois pas que ce soit une consultation essentielle. Nous vivons, je crois, progressivement l'agonie de la Ve République. C'est une agonie douce pour l'instant, c'est ainsi que la promettait d'ailleurs M. Balladur. Il n'est pas sûr qu'elle se passe, qu'elle soit aussi douce que cela sous M. Jospin ou sous M. Chirac.
Est-ce que vous croyez au fameux troisième tour social, troisième tour dans la rue, dont on nous parle beaucoup ces temps-ci?
Oui, je crois à l'impotence absolue des candidats actuels à la présidence de la République, à l'impuissance totale de résoudre les problèmes de notre pays. Puisque, aussi bien, ils ne font pas le bon diagnostic, ils ne peuvent pas élaborer la bonne thérapeutique. C'est aussi clair que ça.
Et vous pensez que, effectivement, les forces qui sont...
Écoutez, je pense que les forces de contestation naturelle à un organisme qui souffre, n'est-ce pas, doit être entendu, n'est-ce pas? Bon, si tout est fait pour que, à gauche comme à droite, ceux qui souffrent ne peuvent pas s'exprimer, il est bien évident qu'ils seront tentés de le faire dans la rue, et que s'ils le font, ce sera de la responsabilité exclusive des politiciens français.
Jean-Marie Le Pen, merci. Je vois que Sophie Brisseau veut absolument vous emmener.
Il veut vous jeter dehors?
Non, pas du tout. Mais moi, j'ai toujours peur que, arrivant en retard à TF1, Jean-Marie Le Pen, après, me fasse le reproche d'avoir...
Non, j'ai encore 10 minutes.
Ah, pardon. Alors, 10 minutes, on va en profiter. Alors,
nous sommes à Victoria. Deux pas.
On nous dit que les propos de ce soir ne sont pas réalistes.
Comment?
On nous dit les propos de ce soir ne sont pas réalistes.
Mais mes propos?
Les propos de ce soir de M. Beketch et de vous ne sont pas réalistes. C'est parce que vous ne donnez pas des choses précises.
Non, je ne crois pas que c'est ça.
Mais de quoi parlons-nous? Nous avons parlé pendant une heure de Carpentras bis.
Oui.
C'était extrêmement réaliste.
Oui.
Pour autant qu'on puisse définir les réalités dans un complot et dans une machination. Enfin, nous avons été à leur recherche.
Et puis il y a un certain nombre de gens qui nous disent qu'on...
Parlez dans votre micro, vous entendez.
Je suis dans le micro, qu'on devrait parler un petit peu de, par exemple, du maire qui a été molesté.
Lequel?
Je l'ai perdu le papier. Mais si, monsieur
Wetzel.
On va le soutenir un peu. En
qui a été molesté parce qu'il était venu au...
Oui, parce qu'il était venu chez
au meeting du Front National.
Oui.
Ça, j'ai expliqué la semaine dernière. Il a été pris à partie par une coalition RPR et communiste, d'ailleurs.
Oui, bien sûr, monsieur. Pas
le
nouveau,
président
ça.
Du bureau de vote était RPR et a été assisté par ses assesseurs communistes pour le passage à tabac, car monsieur Wetzel a été réellement passé
à
tabac.
Ah oui, passé à tabac.
Ah oui, oui. Donc on a vu à l'œuvre le Front Républicain.
C'était le 50e anniversaire de certaines scènes de la Libération.
C'est ça.
Et puis on nous rappelle la jeune fille qui a été violée l'autre jour, et on demande là si c'était pas du racisme.
Non, c'est une Française de souche.
Oui, c'est ça.
Ah non, c'est pas du racisme.
Oui,
ça,
oui. Là, non, on n'en parle jamais.
Ça, c'est un fait divers. Ça ne serait du racisme que si la victime était d'origine étrangère.
Oui, alors bien sûr.
Il faut rappeler quand même que, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, le jour, au moment même où le Marocain du pont du Carrousel se noyait, deux immigrés maghrébins. Un couple de Marocains toxicomanes assassinaient une vieille dame. Et vraiment, il faut avoir des lunettes à fort grossissement pour découvrir l'information dans la presse, si on lit autre chose que
un
présent.
Un crime n'efface pas l'autre, mais souhaite que ces crimes connaissent la même sanction et aient la même importance dans l'opinion.
Oui. Encore une fois, ce qui est en cause, ce n'est pas la nature des assassins ou la nature des assassinés, c'est le comportement des journalistes.
Voilà.
C'est le comportement de la presse qui établit un apartheid dans ce pays, apartheid qui fait que quand un Français est victime d'un immigré, c'est un incident fâcheux. Quand un immigré est tué par un Français, c'est un abominable crime raciste.
Et puis, beaucoup d'auditeurs témoignent, enfin, qu'ils étaient place de l'Opéra le 1er mai, et ils disent qu'ils sont témoins que le service d'ordre de M. Le Pen passait son temps à chasser les skinheads qui étaient là manifestement pour polluer.
Oui, oui,
moi, j'en
absolument.
Ai vu qui se baladaient torse nu, avec des tatouages partout.
Oui, oui. D'ailleurs,
on les a priés de se rhabiller.
D'ailleurs, notre
mais
ami martiniquaise Huguette Fatna a été bousculée sérieusement par un de ses skinheads.
Oui.
Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'à la fin de la manifestation, à 2h, quand le directeur national de la DPS a été voir les gendarmes mobiles pour leur dire, écoutez, il est 2h, notre service d'ordre va évacuer la place de l'Opéra. Or, il y a là 50 skinheads qui sont groupés, n'est-ce pas? Eh bien, personne n'a été leur demander quoi que ce soit.
Oui, ils les ont laissés.
Voilà. Personne ne leur a demandé quoi que ce soit. Ils étaient venus, ils étaient arrivés au fur et à mesure que nous partions. Eux arrivaient, eh bien, la police n'a pas considéré qu'il y avait là un risque quelconque, ni qu'il y avait la nécessité d'interpeller ces gens, alors que la police savait, elle, depuis 2h, voilà, qu'il y avait eu un crime commis au pont. Eh bien, pensez-en ce que vous voudrez.
Oui. Conclusion. Les Français sont avec vous. À force d'en faire trop, l'établissement a été trop loin. Les Français se rendent compte de la vérité. Je ne vote jamais, mais je suis scandalisée par ce que je constate. Jean-Marie Le Pen a beaucoup de courage et je téléphone pour lui manifester mon soutien.
Merci.
Merci à Serge de Becquetch d'avoir invité Monsieur Le Pen. Vous transmettez-lui mon affection et mon admiration pour son grand courage et pour tout ce qu'il va avoir à subir.
Moi, je crois à ce propos. Je crois à ce propos. Il y a une chose qu'il faudrait dire. Je pense qu'il y a une chose que Juppé, Seguin, etc. ne mesurent pas. Vraiment. Parce que, bon, c'est pas des imbéciles, évidemment. Sont des irresponsables, certainement, mais ne sont pas des imbéciles. Mais il y a une chose qu'ils ne mesurent pas. C'est le formidable désespoir que entraînerait une éventuelle dissolution du Front National. Et il y a un cocktail qui est un cocktail dramatiquement explosif, c'est le désespoir et l'exaspération. Or, Wieworka le dit dans Info Matin, le Front National est un facteur d'apaisement. Il ne dit pas ça textuellement, mais il dit... Le Front National a limité
l'extension de paix civile.
C'est un facteur de paix civile.
Il le serait bien plus encore s'il avait la possibilité d'exprimer démocratiquement le sentiment, en dehors de l'opinion des gens, le sentiment, leurs espoirs et leurs désespoirs. C'est à cela que doivent servir les partis politiques, les formations politiques. Elles sont là pour exprimer la volonté du peuple, laquelle est le fondement philosophique des institutions républicaines. Si le peuple n'a pas sa place dans les institutions, elles ne sont ni républicaines ni démocratiques. Ce qui est le cas aujourd'hui, où elles n'ont plus que l'apparence de la démocratie, où elles sont des décors à la Potemkine. Ça vous dit quelque chose, cher ami, vous connaissez l'histoire russe, cher ami de Bekech, ce sont des décors à la Potemkine qui masquent une société oligarchique, dont d'ailleurs les candidats eux-mêmes, mais aussi leurs lieutenants, sont des représentants emblématiques, tous sortis de l'ENA, n'est-ce pas, le moule bureaucratique unique de notre société dirigeante.
Merci. Je crois que cette fois-ci, il faut conclure.
Bon, je ne vous dirai pas, alors cette montée en puissance de la haine médiatique, la France pourra-t-elle échapper à la guerre civile dans la mesure où la voie démocratique s'avère être une impasse?
Mais voyez-vous, ce qui a été tout à fait étonnant, c'est que nous avons été traités avec correction, courtoisie,
oui,
pendant 2-3 mois dans les médias.
Oui, c'était même agréable.
Et c'était agréable, et je crois que ça a beaucoup servi le débat politique, le débat démocratique. Et ce qui est étonnant, c'est de voir des journalistes que nous rencontrons, que nous rencontrions il y a une semaine, souriants, coopératifs, etc. Et brusquement, nous avons en face de nous des procureurs, des commissaires de police, des commissaires politiques qui nous regardent dans les conférences de presse haineusement. Alors, qu'est-ce qui justifie ce retournement alors que ces journalistes ne peuvent pas ne pas savoir que le Front National et Jean-Marie Le Pen ne sont strictement pour rien dans cette affaire criminelle dont ils ont été les témoins et qui savent quelle est la nature des relations qu'il y a entre les milieux marginaux qui circulent autour de toutes les organisations politiques sans que jamais on fasse reporter la responsabilité de leur débordement sur les gens qu'ils viennent précisément parasiter, hein, seulement dans le cas de Jean-Marie Le Pen. Alors moi je dis qu'il y a dû avoir à un certain niveau un ordre.
Oui, ça paraît
un ordre donné, n'est-ce pas, dans le cadre d'une opération de complot mécaniquement mise en route. On appuie sur le bouton, on crée le fait, même invraisemblable, on crée le fait, et à partir de là, brusquement, se déclenche, avec plus ou moins d'ardeur, plus ou moins de rapidité, un certain nombre de pilotes de l'opinion sur lesquels vont s'aligner la presse de province, la presse étrangère, etc., etc.
Ben, ils ont raté leur coup avec Courbevoie, qui était vraiment un coup trop foireux.
Oui.
Et bon, ils ont...
Mais encore que M. Duquesne déclare que, sortant d'une manifestation du Front National... Ben oui, mais les faits se produisent à 6h du matin.
Oui, la manifestation.
Alors la manifestation s'est terminée à 11h. Alors les gens qui sont là sont des gens... Auraient-ils assisté à la manifestation du Front National? Il est probable que les bières qu'ils ont bues pendant toute cette nuit-là ont plus d'influence sur leur comportement que les propos de Jean-Marie Le Pen, lesquels, je le répète, ne sont jamais des propos de haine, mais au contraire des propos d'amour de son pays, de son peuple et des hôtes de ce peuple quand ceux-ci ont été désirés et qu'ils sont en situation régulière. Il m'arrive même d'avoir de la compassion pour des individus ou des familles qui sont dans la misère, et ça n'est jamais aux malheureux que j'en veux, mais aux politiciens français seuls et exclusifs responsable de ce qui se passe dans notre pays.
Mon fils me téléphone pour nous dire qu'il vient d'apprendre que le local du Front National à Angoulême a fait l'objet d'une attaque ou d'un attentat.
Oui, c'est le troisième, quatrième. Non, mais ça, ce sont les appels au meurtre qui sont lancés par un certain nombre de personnes, comme les responsables de la LICRA, du MRAP, de SOS Racisme, ou certains hommes politiques extrémistes ou véreux.
Et beaucoup d'auditeurs qui pensent ça vous disent prenez bien soin de vous, Jean-Marie Le Pen.
Justement, il y a une des précautions qui vient d'entrer dans le studio.
C'est mon ange gardien, et le bon Dieu qui me garde.
Et comme dit François Brignot, ça doit être un ange gardien de première classe.
Ah oui.
Au revoir à tous. Merci Jean-Marie
Le Pen. Et merci de votre accueil.
Et puis, bon, bah, à 20h, tant pis pour Amish, je sais qu'on se portera tous sur TF1.
Au revoir.
Pour connaître le bout du bi du bas du banc. Voilà, il nous reste quelques minutes pour faire des annonces, puisque vous savez qu'aujourd'hui c'est une demi-émission. La deuxième partie de l'émission étant consacrée au fou du roi. Vous avez des annonces à
J'en ai quelques-unes, vous aussi. On nous annonce. Alors, il y a une conférence certitude, jeudi 4 mai à 20h45. Le prince Sixte Henri de Bourbon-Parme évoquera 5 ans de politique internationale après la chute du communisme. Nouvelle menace ou nouvelle donne? La Russie à l'heure des Tchétchènes, l'Algérie entre FIS et FLN, le Liban. Conférence exceptionnelle, le prince s'entretiendra avec Christian Wagner, Xavier de Masneau et l'abbé Guillaume de Tannouarne.
Ça se passe
ça
où,
se
ça
passe, mais je suis en train de chercher, mais je ne vois pas.
Allons bon.
À la conférence à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, donc le jeudi 4 mai à 20h45.
Alors, le samedi 6 à 15h, conférence de Jean Faure. De Fiat Lux au Big Bang ou la naissance de l'univers, ça se passe à la librairie Les Cent Ciels, 23 rue François Miron, si je lis bien, au métro Saint-Paul. J'ai déjà dit que si vous n'avez pas la chance d'avoir lu Jean Faure ou d'avoir assisté à ses conférences ou de l'avoir entendu sur Radio Courtoisie dans mon émission, il faut absolument aller le voir. C'est quelque chose d'assez stupéfiant. Parce que c'est un langage qu'on n'entend plus, ce sont des propos qu'on n'entend plus, et là, c'est un très grand bonhomme, et je vous recommande vraiment les conférences de Jean Faure. Alors là, je répète, samedi 6 mai, autrement dit samedi prochain, à 15h, à la librairie L'Essentiel, 23 rue François Miron, métro Saint-Paul, le sujet de Fiat Lux au Big Bang, ou la naissance de l'univers.
Et samedi 6 mai aussi, de 9h à 18h, l'association SOS Tout Petit vous invite à venir manifester devant la clinique Ordener, 32 rue Ordener. C'est la 12e visite, parce que c'est le centre d'avortement le plus visité de France. Visite entièrement pacifique, mise sous le patronage du Sacré-Cœur de Jésus, de la Sainte Vierge et de Saint-Joseph. Rejoignez-nous.
J'annonce aussi l'ouverture d'une nouvelle librairie amie, qui s'appelle L'Encre, et qui se trouve 12 rue de la Sourdière, en plein centre de Paris, quelques dizaines de mètres de l'avenue de l'Opéra, à quelques dizaines de mètres du marché Saint-Honoré, à quelques dizaines de mètres de la place de la Comédie-Française, c'est vraiment très très central, 12 rue de la Sourdière, avec des ouvrages neufs et des ouvrages d'occasion sur la politique, la religion, l'art, l'histoire, la philosophie, etc., etc., plus tous les bons journaux de la famille.
Et puis le jeudi 11 mai à 21h, conférence de Philippe Prévost, La condamnation de l'action française, nouvelle affaire Galilée. Ça se passe donc jeudi 11 mai à 21h. C'est l'atelier de l'éclipse.
Voilà, je crois que ce sont les dernières annonces qu'on peut faire puisque
l'heure tourne et la bobine aussi.
Le temps qui nous est imparti est écoulé.
Quand les femmes sont belles, le répertoire monte.
Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Voici la deuxième partie du Libre Journal de Serge de Beckett, d'hier soir. Il est précisément 9h.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Beketch, diffusé en direct le mercredi 3 mai de 18 à 21h et en différé le jeudi 4 mai dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Patrick Simon. Si vous le souhaitez, vous pouvez intervenir par téléphone au 46 51 00 85 ou par télécopieur au 46 51 21 82.
Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas m'éterniser, je prends quand même la parole pour que Daniel Amiche comprenne bien le talon de fer de la botte que j'applique sur sa nuque.
Marquons notre territoire.
Je marque mon territoire. Bon, non, simplement pour faire encore quelques petites annonces. Mardi 9 mai à 15h30 et à 19h, dans les locaux du Centre Charlier, 70 boulevard Saint-Germain, 75 005 Paris, au métro Maubert Mutualité, Michel Barski présentera son nouveau film en hommage aux morts du 6 février et à Robert Brasillac. Et c'est un film dans lequel il a intégré l'intégralité des interventions de la soirée littéraire artistique qu'on avait fait le 6 février 95 à la Mutualité, où sous la présidence effective de Maurice Barjèche, quelques milliers de personnes ont pu entendre Bernard Anthony, Anne Brassier, François Brignot, Camille Gallic, Jean Madiran, Martin Pelletier, Alain Sanders, Pierre Sidos, votre serviteur et le cœur bourgeois Saint-Denis. Et je crois que c'est un document tout à fait intéressant. Donc, je vous rappelle, mardi 9 mai à 15h30 et à 19h, dans les locaux du Centre Charlier, 70 boulevard Saint-Germain, 75 005 Paris. Et on pourra acheter la très belle cassette de Michel après l'avoir vue.
L'Action étudiante pour l'Ukraine présente Armelle Doutrebente, mezzo-soprane, et Marie-Agnès Gralmenet, organiste, dans Bach, Grandi, Handel, Mozart, Vivaldi, le jeudi 11 mai à 20h30 à l'église Saint-Julien-le-Pauvre, au métro Saint-Michel. Réservation 48 04 59 93. Prix des places 120 francs ou 80 francs.
Je rappelle l'adresse du comité de défense des sauveteurs. Vous savez, c'est le comité qui soutient les sauveteurs qui interviennent dans les avortoirs. Ce comité de défense des sauveteurs auquel on peut envoyer une participation, c'est boîte postale 1521 37015 Tours. Boîte postale 1521 37015 Tours CEDEX.
Le jeudi 11 mai de 16h à 20h, Thibaut de la Tocnay dédicacera son livre La décomposition de la 6ème République. Au Centre Charlier, 70 boulevard Saint-Germain, Paris 5e, métro Maubert Mutualité.
Et puis beaucoup de jeunes auditeurs ont demandé qu'on rappelle les dates et les conditions du camp d'été organisé par Reynald Secher pour remettre en état la chapelle de la chapelle Basse-Mère. N'est-ce pas, monsieur Amiche? Vous savez qu'est-ce que je cause d'eux?
Voilà.
Bien.
On avait fait un duplex.
Alors,
ambitieux.
Donc c'est du 14 juillet. C'est la date ou jamais pour commencer la réflexion d'une chapelle détruite par la Révolution.
C'est une grande fête, je ne sais plus laquelle. C'est pas la naissance de Philippe Auguste.
C'est la naissance de Philippe Auguste, je crois que c'est ça.
C'est une grande fête.
Donc du 14 juillet au 2 août, pour 1300 francs, vous pourrez maçonner toute la journée. C'est pas cher pour un. Hein. Donc voilà, il s'agit de participation aux frais, ou de participation aux travaux, les deux. Et pour tout renseignement, on s'adresse à Reynald Secher, 39 boulevard Barbeau, B-A-R-B-O-T, 35530, Noyal-sur-Vilaine, N-O-Y-A-L, sur Villesnes. Reynald Secher, je rappelle, c'est R-E-Y-N-A-L, S-E-Y-C-H-E-R. C'est un nom qui ne rapporte rien au Scrabble.
Strictement.
Parce qu'il n'y a pas assez d'Y pour le faire. Et puis, je vous signale, pour ceux qui ne le savent pas, que Nous avons des amis qui ont ouvert à Paris un magasin de produits sans engrais ni traitements chimiques, qu'on appelle des produits eubiotiques. Ça s'appelle très joliment le paysan de l'Arche, et il s'agit de catholiques, d'agriculteurs catholiques. Donc c'est deux espèces en voie de disparition, le paysan et le catholique. Et si on veut participer, si on veut profiter de leurs compétences, on peut aller se fournir dans leur magasin, qui se trouve 8 rue Marbeau, 75-116 Paris. Ne rêvez pas, c'est pas parce que c'est dans le 16e que c'est un magasin de luxe. Le paysan de l'Arche, 8 rue Marbeau, 75-116 Paris, téléphone 40-67-76-22 pour les heures d'ouverture. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Répétez l'adresse de la Sourdière. Qu'est-ce que c'est la Sourdière? Ah, la librairie. Alors, la librairie, ben c'est, je crois que c'est 12, ça s'appelle la librairie L'Encre, 12 rue de la Sourdière. Enfin, la rue de la Sourdière, de toute façon, elle est courte et étroite, donc vous n'aurez pas de peine à trouver. C'est à proximité d'un bon restaurant. Voilà, 12 rue de la Sourdière, la librairie L'Encre. Merci, mon cher Daniel.
Avec un E dans là, hein, c'est
voilà,
là.
Avec A-E dans là, voilà. Oui. Merci.
Ah mais non, c'est moi qui...
À la semaine prochaine.
Merci de me laisser la place.
Que Dieu nous garde.